Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas. Nous sommes à Paris en fait, au 31 Place de la Madeleine. Et je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Paris sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Frédéric Chaudière, qui est le propriétaire du château Pesquier au pied du Mont Ventoux, et le Vino Quiz pour gagner un coffret Divine et 6 verres œnologue expert de la marque Chef et Sommelier en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, comme hier en fait, hein, Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Vous avez fait un petit footing ce matin là, en vous réveillant avant de venir à l'émission ou pas?
Comme tous les dimanches matins.
Ouais, ouais, d'où la forme magnifique. Et Philippe Orbach qui est tout beau aussi là. Bonjour Philippe.
J'essaie de suivre Hélène.
Philippe qui est notamment propriétaire de ce bistrot du Sommelier à Paris, boulevard Haussmann, qui est une très bonne adresse pour les amateurs de vin et puis les autres. Alors pour commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Hervé Kerlan, qui est propriétaire du château de la Borde en Bourgogne. Bonjour Hervé.
Bonjour Alain.
Alors vous êtes né à Rabat, donc on est plutôt du côté du Maroc. Vous êtes breton d'origine, vous avez appris le vin à Bordeaux et vous êtes un expert en vin de Bourgogne.
Eh oui, c'est un
c'est
long parcours.
C'est dingue comme hein. Mosaïque là, racontez-nous là.
Ben, mon père était ingénieur, donc il faisait des grands travaux publics, et c'est pour ça que je suis né au Maroc, et j'ai vécu après à Conakry, en Guinée.
Ah oui, j'avais oublié la Guinée.
Je suis arrivé à 4 ans en France, un gros choc culturel.
Ouais.
Et puis, dans une famille de Corréziens, du côté de ma mère, c'est des Corréziens. Ma grand-mère s'appelait Marguerite Chaise.
Est-ce qu'elle était vraiment très économe? Pas forcément.
Pas forcément, non, ouais. Non, elle savait ouais. dépenser quand il fallait. Et donc, il y avait des propriétaires, enfin, ça remonte, le côté corrézien, c'était parmi les premiers qui sont venus dans le Bordelais, quoi, en 1873.
Ouais.
Et donc, il y avait des vignes, des châteaux, et une partie négoce, et comme il n'y avait pas de garçon, c'est mon père qui...
C'est votre papa, quoi.
Qui s'y est collé.
Ah ouais, Philippe.
Beaucoup de corréziens sont allés s'installer, notamment dans le Libournais, hein,
c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, moi j'ai été élu à Libourne.
Et
ouais.
Exactement, et c'est le fief corrézien.
Et ils bossaient dans le vin, donc il y avait une maison de négoce, c'est ça?
C'est ça, ma grand-mère avait des vignes, et mon père s'occupait de la partie négoce.
Oh là là. Et alors, vous arrivez au Bourgogne, quoi, par hasard, vous êtes trompé de route, vous cherchiez
non,
le ferret,
entre-temps, je crois qu'on ne peut pas passer du Bordelais à la Bourgogne, c'est impossible. Moi, j'ai fait 14 ans au Canada, entre les deux.
Très bien. Et alors, voilà. Le vin de glace, parlons-en. Philippe Orbach, un petit commentaire sur le vin de glace, là.
C'est vrai que le Canada est très connu pour ça, c'est le principal producteur mondial de ces...
Mais comment on fait un vin de glace, d'ailleurs? C'est-à-dire qu'on attend qu'il gèle et puis on le boit?
Oui, oui, on utilise d'abord un cépage qui s'appelle le Vidal, ce qui est un cépage très original au Canada, et ensuite on attend qu'il gèle. Alors, c'est pas compliqué au Canada, rassurez-vous.
C'est pas le vin qui doit geler, c'est le raisin, je tiens à préciser.
C'est le vigneron qui gèle.
Le raisin gèle.
Le vigneron, tous les ans, il gèle.
Et quand le raisin est effectivement gelé, on le ramasse plutôt la nuit, histoire de bien concentrer le tout, et on fait un pressurage. Ensuite, on évacue le glaçon qui est concentré en eau, et on garde la quintessence très sucrée du jus restant, et que l'on vinifie doucement. Comme c'est très concentré, c'est un peu plus long à vinifier. Et on obtient des vins, certes, très sucrés, très concentrés, plusieurs centaines de grammes des fois par litre, mais avec une buvabilité qui vient de deux facteurs. D'abord, un taux d'acidité relativement important et un faible taux d'alcool, parce qu'effectivement, les levures meurent saturées, j'allais dire, par l'ensemble de la constitution. Donc, finalement, peu d'alcool, pas mal de sucre et beaucoup d'acidité.
Oui, ça marche.
Ça reste buvable. Des demi-bouteilles, souvent, hein, il en faut tellement peu qu'il...
Il valorise, comme on dit.
Il valorise.
Oui, bon. Hélène?
Alors, la valorisation, c'est l'un des métiers d'Hervé Kerlan, puisque, effectivement, il y a eu le Québec, et puis retour en France en 1991, vous devenez directeur d'une maison bourguignonne avant de créer votre propre maison de direct domaine distribution. Là, c'était pour exporter les vins français jusqu'à ce que vraiment ça vous démange de faire le vôtre.
C'est ça, exactement, c'est ça. Et puis en 1993, donc je distribuais des vins de domaine bourguignon en Asie, principalement. Et puis, à force d'être dans les caves, de comprendre un petit peu les itinéraires et tout ça...
J'y vais.
C'est ça.
Bon, ce château de la Borde, racontez-nous, là. Il est où, là? Il y a des monuments magnifiques à côté. Hein.
Ah oui, il est à 10 km de Beaune, en plaine. Et je pense qu'au départ, c'était une espèce de petit fort qui protégeait la ville de Beaune. Parce qu'il y en a d'autres, la Borde. La Borde, ça veut dire petite place fortifiée. Ça, c'était propriété des ducs de Bourgogne. Et puis, il y a eu le passage avec la France, les Valois qui ont perdu, quoi.
Le roi breton qui achète.
Ça, bien après.
Avant ça, ça a été grandeur et décadence. Hein.
Voilà.
À un moment donné, c'était magnifique. Après, c'était tout pourri. Ça, et vous êtes arrivé plutôt en période toute pourrie.
Exactement. Le château était pourri, là.
Mais ben, c'était le bon moment pour l'acheter en même temps.
Les restes du château. Ouais. Puisque le vrai château qui a été à un moment donné comparé au Versailles bourguignon,
il a été détruit.
Il s'est démantelé.
Ça, c'est encore c'est David Cobol et ses congénères, non ?
1840, après la Révolution, les familles étaient parties.
Ils ont récupéré les pierres.
C'était le château du premier président du Parlement de Bourgogne.
Et là, vous l'avez acheté quand ?
J'ai acheté en 1998. Aux Hospices de Beaune, qui étaient propriétaires. C'était les Hospices de Beaune qui étaient propriétaires.
Et vous avez tout retapé ?
Et j'ai tout retapé, oui.
Donc vous avez plus d'argent, parce que tout retapé, un château, ça coûte cher, non ?
Ah oui, là, on s'est saigné.
Bon, nous allons procéder à une quête en faveur de
Thierry,
pour les auditeurs.
Et puis du coup, j'ai planté en 2000, j'ai planté des vignes,
ouais.
Et planté du pinot noir, et puis voilà. Puis en 2005, bah, il fallait vinifier, quoi. Et puis je m'y suis mis, j'ai commencé par une petite cuve de vin Hecto, et puis après ça...
C'était bon ou pas, la première cuve était comment ?
Ouais, c'est pas mal, ouais.
Il y a votre famille, votre grand-mère qui dit que c'était bon.
C'est pas un vin historique, je crois qu'il m'en reste une bouteille.
Non mais ça va aller, je plaisante.
Gardez-la pour la postérité, c'est mieux.
C'est des vignes jeunes, mais servies par un bon millésime.
Oui, c'est ça.
2005, c'était ça à peu près.
Absolument.
Bon, alors, ce blanc pinot noir, parce qu'après on va parler des autres, là. Ça, c'est quand même original.
Ben, ça faisait longtemps, moi j'aime beaucoup les champagnes de pinot noir, j'aime beaucoup ce côté... fort, enfin un peu puissant,
structuré
et voilà. Et comme j'avais des vignes qui sont classées en IGP, en 2007, l'INAO a déclassé toute une zone en plaine, quoi. Ça se valorisait pas vraiment. Et puis j'avais vraiment envie d'essayer. Donc l'onologue conseil, le labo avec qui on travaille.
Vous avez pris pour un fou ?
Voilà, il m'a dit mais complètement fada.
Faut changer de labo.
Ça va faire du rosé, vous y arriverez pas. Vous êtes obligé de mettre du noir animal, enfin, ou du charbon.
Ils sont des éléments finalement,
petit mot technique là, Philippe Orbach. Quand on prend un raisin là, pour arriver à du blanc ou du rosé, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est-à-dire qu'on presse plus ou moins fort ?
Si vous pressez assez rapidement, aussi en gérant la température et surtout le niveau de pressurage, vous obtenez un jus le plus clair possible.
Voilà.
Si vous laissez un petit peu de macération, vous obtenez un jus coloré. Alors on parle de rosé, mais souvent de vin taché, c'est le terme utilisé notamment en champagne.
De perdrix.
C'est-à-dire que c'est un peu un compromis entre un rosé très pâle et un blanc légèrement trop marqué.
Et vous, il est blanc, votre blanc ?
Il est blanc. J'y suis arrivé parce que j'ai un vieux pressoir, un Vasselin, comme coche du riz, qui est vraiment manuel. Et j'arrive vraiment à gérer mon pressurage. Et puis bon, après j'y vais à l'œil. Et donc du coup, j'écarte, j'arrive à récupérer que la première partie de la pressée.
Oui, c'est ça.
Après ça, c'est par en rosé. Et il faut, faire autre chose.
En étant, comme on dit, sur son pressoir,
c'est ça.
On est à la manœuvre.
Ouais,
donc on peut effectivement trier la partie la plus claire pour s'en servir. Pour faire le blanc et le reste, effectivement, pour le polo rosé.
Ça donne quoi, un blanc de pinot noir ?
Un vin blanc, mais un vin blanc qui a quand même beaucoup de mâche, beaucoup de corps, qui a beaucoup de présence. Et pendant, au tout début, je me disais, mais comment ça va marcher ? Parce que c'est un peu déroutant.
On pense
à du chardonnay, on pense mais ce n'est pas ça. C'est un goût vraiment nouveau.
Est-ce que ça ressemble à un champagne sans bulles ? Parce que finalement, c'est
bonne
un blanc de noir.
Oui, bonne question.
D'habitude, le champagne a des bulles, donc il faudrait que...
Imaginons, vous ouvrez un Mathusalem et vous êtes deux, il en reste un petit peu le lendemain matin.
Il y a quand même la possibilité...
Avec modération, Mathusalem, c'est bien 37 centilitres 5, bien sûr.
Il y a quand même l'occasion de goûter des vins issus du terroir de champenois sans bulles, puisqu'il y a une appellation qui s'appelle les coteaux champenois. Voir le rosé dérissé pour le côté rose. Et dans les coteaux champenois, on peut techniquement faire également du blanc avec du pinot noir, voire du pinot meunier. Donc on peut avoir un repère. Peut-être que la différence, pour répondre à la question d'Hélène, sans m'avancer sur votre réponse à vous, Hervé, mais c'est le degré de maturité des raisins qui est assez différent. En Champagne, on a des acidités plus fortes, donc on a des vins un peu plus acidulés. En Bourgogne, et notamment dans votre secteur, on a des maturités plus fortes, donc des raisins qui donnent
Et les plats, on peut associer quoi comme type de plat avec votre blanc ?
Moi j'ai découvert, en fin de compte, qu'il y a des plats très difficiles à faire
à marier,
comme les asperges.
Ah, ça marche bien avec les asperges.
Ça marche super avec les asperges. C'est vraiment
pour moi
ça a été une découverte. et puis les artichauts, des légumes verts. D'ailleurs, j'ai eu un article super dans Cuisine et Vin de France. Hein, sur un plat de légumes. Et
un plat de légumes, légumes et voilà, blancs depuis de Noël. Ouais,
surtout que c'est la tendance aujourd'hui de manger plutôt végétal.
Ouais. Oui, c'est ouais. Ça.
Donc effectivement, ça peut être une bonne alternative.
Mais une bonne côte de bœuf, ça marche ou pas?
Non, c'est un peu plus compliqué.
Non, il hein y a autre chose quand même.
Mais il y a quand même cette tendance aujourd'hui, alors dans cet esprit-là, hein, ouais, de faire effectivement des vins un peu atypiques. Notamment oui, quand on n'est pas contraint par les appellations, ce qui est le cas ici en IGP, voire de développer les fameux vins oranges aussi, hein, dans un autre état d'esprit. Et ce sont des vins qui finalement permettent, bah, nous sommeliers par exemple, d'avoir des jolies clés d'accord quand on est coincé. On essaye de belles approches et finalement on s'aperçoit que ça fonctionne plutôt pas mal. Quoi. Oui.
Hélène ?
Alors, petite coquetterie, il ne s'appelle pas Château Laborde, il s'appelle Laborde au Château, votre blanc de Pinot Noir.
Bravo,
pourquoi?
Bravo, oui, parce que...
Bah, ça m'a attiré l'œil, je me suis dit...
Parce que c'est un vin de France, puisque j'ai perdu la possibilité de le mettre en... Parce que,
même en IGP, donc.
Même en IGP, je ne peux pas, parce que le Pinot Noir n'avait pas été classé comme cépage pouvant rentrer dans la fabrication des vins blancs. Je suis en train de faire un dossier pour remettre cette classification.
Vous l'aurez d'ici 2-3 siècles.
Mais voilà, c'est ça, on n'est pas pressé. Et donc, du coup, je ne peux pas mettre Château de Laborde. Mais d'accord, comme on est situé à Laborde au Château,
hey,
et que
la
éventuellement sur les étiquettes, donc il y a des vins qui sont marqués Château de Laborde.
Mais là on voit le côté breton marocain de Guinée,
bonnet blanc et blanc bonnet.
Par les douanes.
Bon, super. Et pour terminer,
ça n'a pas été refusé en tout cas.
Dites-nous, Hervé, votre meilleur souvenir de dégustation pour terminer, en dehors de vos vins peut-être ou votre vin, le vin que vous avez le plus ému dans votre vie, une jeune vie.
Jean-Yves Bizot.
Oui.
C'est assez extraordinaire.
Sur quel type de vin, ou quel millésime ou
n'importe quoi.
N'importe quoi.
Tout chez Jean-Yves.
Ouais. C'est bon, c'est
Jean, chez Jean-Yves. C'est vrai, vraiment. Là, on est sur une autre.
Bon. Et vous avez quand même une gamme de vins aussi. On peut rappeler, Hélène, que la gamme proposée par Hervé est largement au-delà de ce blanc de Pinot Noir. Il y a quand même toutes les grandes appellations de Bourgogne.
Oui, bien sûr. Ça, en rouge, on démarre avec les Bourgognes classiques, on va dire les Hautes-Côtes de Nuits, les Hautes-Côtes de Beaune. Et puis après, on va jusqu'à des Gevrey-Chambertin, seuls ou en Deray, aux Ételois, Billard,
en 2017, etc., qui sont superbes.
Les Chambolles-Musigny, fabuleux. Ouais. Beaucoup, beaucoup de choses. Et en blanc, on a ligoté. Et puis, le fameux.
Bon, on trouve tout. On trouve tout chez Hervé. Et vous, Didier Corr?
Moi, je disais que j'étais ravi qu'on reçoive le Château Laborde. Alors, aussi Ronan Laborde.
Oui, c'est ça. Oui,
c'est le bistrot du samedi est à côté de la rue Laborde. Nous sommes entourés.
Et puis, on salue Françoise. Alors, voilà. Donc, merci beaucoup. Et Catherine aussi. Merci beaucoup. Merci, Hervé. On se retrouve dans un instant pour le Ville Quiz pour gagner des vins, les 6 verres à vin œnologue expert de la marque Chef et Sommelier et les coffrets Divine.
Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio, pour nous indiquer vos vignerons favoris. Et Philippe Orbach, c'est à vous pour le Vino Quiz.
Et oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, vous posez une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Un coffret Divine et 6 verres œnologue expert de la marque Chef et Sommelier appartenant au groupe Arc, leader mondial des arts de la table, en jouant sur invinoradio.tv. Voici la question de ce week-end. Qu'est-ce que l'Union des Grands Crus de Bordeaux, dont Ronan Laborde est le président? Réponse A, le nom d'une salade à base de légumes crus. Réponse B, une association contre les rivières en cru. Ou réponse C, le rassemblement de 131 des plus grands crus sur les appellations bordelaises les plus prestigieuses.
Et la réponse?
Et la réponse est, en tout cas. En tout cas, on vous souhaite de gagner un coffret Divine et 6 verres œnologue expert de la marque Chef et Sommelier. Rendez-vous pour cela toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz.
Merci beaucoup Philippe Orbach, Invino Studio Radio. Le grand plaisir maintenant d'accueillir Frédéric Chaudière, qui est le propriétaire du château Pesquier. Bonjour Frédéric.
Bonjour, merci à tous les trois de m'accueillir.
Alors, ravi d'être que vous soyez parmi nous. Alors, c'est une affaire familiale, hein. Racontez-nous avec une aventure qui débute dans les années 70, 1970, je suppose. Hein.
Absolument. Je suis la troisième génération avec mon frère Alexandre et ce sont mes grands-parents René et Odette, qui se sont installés dans le Ventoux, à la veille d'ailleurs du début de la classification de notre zone en AOC en 1973.
Le domaine et pourquoi ensuite... le Ventoux non, parce qu'ils ont choisi, ils ont hésité avec d'autres vignobles
Alors c'était un peu des locaux de l'étape en réalité, ils étaient déjà installés à Orange, donc ça a été un déménagement quand même assez rapide. mais il y avait déjà un petit peu, je sais pas, l'appel des hauteurs, l'envie de se mettre au frais et une amour, enfin un amour pour cette région.
Il y a pire parce que c'est quand même juste sublime. Hein. Hélène ?
Alors effectivement, vous parliez des grands-parents, vous parliez de votre frère Alexandre, on y viendra. Mais alors vous avez failli super mal tourner quand même. Hein.
Oui.
Hippocagne et Cagne à Louis le Grand, une maîtrise de philo et d'histoire à la Sorbonne,
pas du tout, hein.
Sciences Po Paris, on a failli vous perdre.
Le coup passe à si près.
C'est ça. Heureusement qu'enfin vous avez trouvé votre voie avec le vin quand même. Hein, généralement.
Ça a quand même été assez rapide. Je suis rentré vers 23 ans, donc
vous êtes rentré dans le droit chemin. Vous êtes dit bon quand même, je retourne aux cuves, je retourne à la cave. C'est quand même ce qu'il y a de plus important.
Non, on est d'accord. De toute façon, c'est une maladie familiale. Vous avez compris le vin chez nous et ayant attrapé le virus assez tôt, il m'a forcé à rentrer.
Donc vous avez fait aucun boulot à part la boîte familiale.
Je suis passé très rapidement par un peu d'édition, un petit peu de Canal+, mais vous imaginez que j'ai pas eu le temps d'en faire quand même une longue carrière.
Ouais, 23 ans quoi. Hélène ?
C'est ça. Et puis donc Alexandre, lui, de son côté, a étudié donc plus viticulture, œnologie, a travaillé un petit peu partout en France, et puis les deux frangins se sont retrouvés là-bas à Pesquier, dans le Ventoux. Mais alors bon, comment ça marche vous deux? Alors c'est lui qui fait le vin et vous le regardez, ça marche comment?
Effectivement, c'est lui qui travaille de manière générale. Non, en réalité, si vous voulez, comme on est en vigneron, on fait beaucoup de métiers à la fois au vignoble, dans la cave et dans la distribution et la vente, on s'est un peu partagé la tâche. Et donc moi, je suis plutôt sur les deux dernières quand lui est plutôt sur les deux premières, mais on essaie quand même de réfléchir et de penser, de déguster et de donc créer les vins à quatre mains.
Alors le domaine est en biodynamie. Vous êtes nombreux en biodynamie dans la région ?
Dans l'appellation, on est encore une minorité. Il y a quand même un développement et un intérêt croissant pour la biodynamie, à n'en pas douter. Mais en termes de certification, les surfaces sont encore assez faibles. On est à moins de 3%.
3%. Au total, combien d'hectares vous avez, vous dites ?
Sur le domaine, il y a une centaine d'hectares.
Planté en vigne ou avec d'autres choses ?
Planté en vigne.
Planté en vigne. Donc ça fait une production en bouteille de combien à peu près ?
On fait entre 450 et 500 000 bouteilles.
500 000 bouteilles, quoi. Et donc là, vous avez toutes les couleurs, je suppose ?
Oui, principalement des rouges, mais un petit peu de rosé. Et on croit beaucoup au blanc dans le Ventoux. Donc c'est quelque chose qui se développe petit à petit. On vient de planter des bourboulins, qu'on vient de reprendre des clairettes. Voilà, c'est pour nous une grande partie de l'avenir de notre appellation.
Philippe Forbrac, les blancs du Ventoux, vous partagez l'avis de Frédéric, il y a un gros potentiel ?
Oui, parce qu'il faut rappeler que le Ventoux, c'est quand même une montagne qui culmine à quasiment 2000 mètres d'altitude, un peu moins. Et que les vignobles sont quand même aussi en altitude. On est sur des terroirs assez tardifs. Donc, avec des fraîcheurs naturelles qui sont intéressantes, même en été. Moi, j'étais encore cet été dans ce coin. Au mois d'août, on met une petite laine volontiers. On ne mange pas tous les jours en terrasse, et surtout pas le soir.
Oui, c'est ça, c'est midi donc, peut-être. Mais
oui, mais donc, du coup, ça préserve les acidités naturelles, ce qui est fort intéressant. Et puis, l'assemblage que vous avez évoqué de Bourboulin, qui est un cépage déjà naturellement avec une belle acidité, et de la clairette, qui est un cépage moi, auquel je crois vraiment, c'est pour moi le grand cépage du sud de la France aujourd'hui. On a beaucoup parlé du Vermentino, on évoque aussi d'autres cépages, etc. Je pense que la clairette, c'est un vrai grand cépage qui allie à la fois des qualités aromatiques et en même temps une certaine densité beaucoup plus équilibrée que les grenages blancs.
Hélène ?
D'autant plus que, Philippe, vous parliez d'endroits tardifs, effectivement. Je pense que ça, pour ça, la biodynamie, c'est pas mal, parce que vous êtes chez les tardifs des tardifs. Du coup, vous êtes moins à risque, peut-être, au printemps. Mais vraiment, chez Château-Pesquier, vous devez être parmi les derniers à mûrir.
Alors, effectivement, on est parmi les plus en altitude, et donc les plus tardifs de l'appellation, les plus tardifs du sud de la vallée du Rhône. Et globalement, ça nous aide à maintenir une belle fraîcheur dans nos vins, qui devient vraiment le nerf de la guerre pour les vignerons du Sud. Malgré tout, on a cette année, comme beaucoup, été un peu touché par le gel.
Ah oui.
Mais notre tardivité nous a préservé d'être parmi les plus touchés. Donc
ça veut dire que combien à peu près en moyenne ?
certainement moins 20, moins 25.
Il y a pire, hein.
On a beaucoup de camarades qui effectivement vont souffrir beaucoup plus.
Il y a pire, bien entendu, il y a pire des endroits où c'était à 100% sur certaines parcelles, notamment du côté de Châteauneuf. Est-ce que les contre-bourgeons, notamment, ont permis de redémarrer, d'être suffisamment fructifères pour donner une récolte suffisante?
A priori, chez nous, oui. Il va y avoir quand même un peu d'hétérogénéité sur certaines parcelles, oui. Mais on est encore assez confiant. Et encore une fois, on est... Voilà,
oui, à moins 20, malheur, vous sauvez les meubles largement. Bien.
Je me sens pas mal.
Hélène ?
Vous avez aussi un autre grand atout, ces deux sources qui se croisent sous le château et qui vous assurent, bon, alors, du point de vue des adeptes de la biodynamie, une énergie extraordinaire. On y croit, on n'y croit pas, mais bon, le fait est que...
En tout cas, il y a de l'eau.
Il y a de l'eau, et puis de toute éternité, les sourciers, effectivement, trouvaient quand même qu'il y avait quelque chose d'intéressant là, dès le Moyen-Âge. Donc on n'est pas uniquement sur Rudolf Steiner et le 20e siècle.
Oui, il y avait aussi les sorcières à l'époque. Hein. Oui.
Oui, bon, d'accord. Non, mais on a arrêté
les druides.
Des druides, quoi.
Mais en tout cas, cette eau autour de vous, c'est une grande chance aussi pour le vignoble.
C'est une immense chance. Et d'ailleurs, c'est de là que vient le nom Pesquier. C'est pas Château Chaudière. Hein. C'est le nom du lieu, évidemment, qui a prévalu ici. Et dans nos régions quand même relativement arides, on a un climat frais, mais malgré tout, qui connaissent assez la sécheresse, l'eau est évidemment la richesse primordiale.
Oui, c'est une dorée alors, quoi. Oui. Ouais.
Et donc, alors on va venir au vin quand même, parce que l'eau c'est bien, mais finalement c'est le vin qui nous intéresse. Alors, parmi les différentes parcellaires que vous avez, les différentes gammes, de quoi on parle d'abord? Justement, des parcellaires, de quintessence, des terrasses, de quoi on parle en premier?
Bah, comme vous voulez, écoutez, la gamme est assez large. On a un premier niveau de la gamme qui s'appelle Terrasse, qui est à la fois qui est décliné en rouge, en blanc et en rosé, qui correspond un peu à une photographie globale du domaine. Et après, en montant en gamme, on a quintessence rouge et blanc, le premier étant plutôt une majorité de Syrah, quand le deuxième est une majorité de Roussanne. Et ensuite, sur les quatre cuvées parcellaires qu'on a développées ces dernières années, on a Silica, qui est une dominante de Grenache sur sable, Artémia, qui est plutôt une dominante de Syrah sur calcaire, et Ascensio, où on revient sur des grenaches, sur des terroirs argilo-calcaires.
Alors avec tout ça, ça vous fait un seul rosé sur toute la gamme, alors que tout dans la fait. Région, c'est quand même le truc qui a le vent en poupe, le rosé.
Le rosé a effectivement pris un grand essor dans l'appellation Ventoux, c'est plus d'un tiers, presque 40% ah oui. aujourd'hui.
Et
de
chez
la
vous,
production.
Combien?
Chez nous, c'est à peu près 15%.
Oui. D'accord, donc vous privilégiez aussi, pour l'instant, c'est vrai que quand on a la chance d'avoir des grands blancs et des grands rosés. Cette peau du rosé, ça vous agace ou pas?
Pas du tout, non, au contraire. Je pense que. Alors, on a une vraie tradition, de toute façon, en étant au carrefour du sud de la vallée du Rhône et de la Provence,
et oui.
sur le rosé. Donc, le Ventoux a commencé à faire du rosé bien avant que ça devienne une mode. Et même au début des années 2000, plus de 20% de la production était déjà en rosé. Donc, c'est un patrimoine historique chez nous déjà.
Hélène?
Mais effectivement, dans la famille, vous privilégiez plutôt les beaux blancs, les beaux rouges du Ventoux.
Et combien ça coûte tout ça d'ailleurs? La gamme de prix, ça va être combien?
On est entre 10 euros et 60 euros.
À 60 euros quand même, c'est lequel 60 euros?
C'est Ascensio, c'est la troisième cuvée parcellaire dont je vous ai parlé.
Ouais, donc c'est la star.
Donc Grenache Syrah. Sur un terroir argilo-calcaire et j'imagine que s'il est à ce prix-là, c'est aussi que vous en produisez très peu de bouteilles.
Exactement, c'est des vieilles vignes de Grenache, ce sont des rendements extrêmement bas. On fait des vinifications et des élevages exclusivement en béton, mais avec un élevage qui dure presque 3 ans. Et on a un petit peu de vendange entière qui nous aide.
Donc pas trop de bois,
pas de bois du tout.
Du tout, c'est un choix.
Ouais.
Et pourquoi?
Bah écoutez, on s'est aperçu que ces raisins étaient déjà complets en eux-mêmes.
Il y avait la matière en elle-même, pas besoin de faire plus, quoi.
On avait besoin de leur apporter une petite fraîcheur supplémentaire grâce à la rafle.
Oui.
Mais sinon, en leur laissant le temps en béton de s'exprimer, on arrive à
avoir... Et vous les vendez où alors toutes ces bouteilles-là? Parce que c'est bien, même si vous consommez beaucoup dans la famille, vous devez les vendre un
alors
peu aussi.
Alors effectivement, la consommation familiale est assez vaste, mais ne suffit pas à anéantir intégralement de notre production. Aujourd'hui, on s'adresse aux cavistes et aux restaurateurs, et on a la chance d'exporter dans une quarantaine de pays.
D'accord.
Donc, mais là aussi...
Et vous avez souffert pendant la crise? C'est-à-dire que vous avez quand même continué à vendre, ou vous avez senti un coup d'arrêt? Comment vous avez vécu la chose?
On a eu très peur l'année dernière, comme tout le monde, je pense.
Oui.
Et en réalité, ça s'est pas si mal passé. On a eu une petite baisse de nos ventes qui est déjà largement effacée cette année. On a eu la chance aussi d'avoir le soutien de la distribution en ligne, et les cavistes globalement ont plutôt tiré leur épingle du jeu.
Ils ont très bien marché, oui.
La restauration évidemment a manqué un peu à l'appel, mais on a beaucoup pensé à eux.
Hélène, peut-être une dernière information concernant donc le Frédéric, les différentes cuvées.
Concernant Frédéric, je n'oserais pas, mais je le laisse libre de nous
demander. Demandez-lui s'il est marié.
Voilà,
il lui répondra.
Marié, deux enfants.
Et en plus, fidèle comme tous les hommes mariés.
Mon cœur n'est plus à prendre.
Bon, alors, je peux signaler à nos auditrices, désolé pour son épouse, qu'il a des très très beaux yeux bleus. Bon, voilà, c'est de la radio, elle ne le voit pas, donc j'essaie de faire un petit effort. Non, je vais surtout signaler le site internet www.chateaupesquier.com. Pesquier, ça s'écrit P-E-S-Q-U-I-E. C'est important parce que là aussi, on fait de la radio. Ça pourrait s'écrire Q-U-I-E-R.
Oui, il pourrait être dans les étoiles, comme un astronaute, par exemple.
Voilà, mais c'est Pesquier, I-E à la fin.
Merci beaucoup. Merci Frédéric Chaudière et Hélène Piau. Merci également à Hervé Kerlan et puis Philippe Forbach, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous suivent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site, le site sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio. Retrouvez également dès aujourd'hui les coups de cœur côté Madiran de Bernard Burchi, journaliste et dégustateur, dans la rubrique Billets d'humeur du site invinoradio.tv. On se retrouve samedi prochain, ça sera 13h précise pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Voilà, d'ici là, excellent déjeuner. C'est maintenant, c'est l'heure. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez et soutenez tous les vignerons français et surtout, respectez la plus grande des modérations.
Sud Radio, Invino.